Cher Raphaël, c'est la débandade pour les États-Unis en Afghanistan. Ça va très, très mal. Et je ne sais pas si tu avais lu cet article dans le U.S. News and World Report en juillet qui disait « Si les Américains se retirent, no way they can go back. Ils ne peuvent pas retourner. C'est impossible. » Et là, ils retournent.
Ils n'ont pas le choix d'y retourner. Puis pourquoi ils n'ont pas le choix d'y retourner? Je te mets le contexte, Marie-Claude. Un petit peu plus tôt aujourd'hui, le New York Times rapportait que les négociateurs américains essayaient d'obtenir des promesses de la part des talibans de ne pas attaquer l'ambassade américaine à Kaboul pendant que les États-Unis essayaient d'évacuer leur monde. OK? Mais évidemment, qu'est-ce que tu penses que les talibans ont dit? Ah, OK, oui, ça semble être une offre raisonnable, on va vous laisser évacuer votre monde. C'est les talibans. Fait qu'évidemment qu'au final, pour essayer de sauver leur propre personnel, l'armée américaine a annoncé le renvoi de milliers de soldats américains, donc pour aider à les sortir en sécurité. Et comment est-ce que ces gens-là, ou pourquoi ces gens-là sont en danger en premier lieu? Ben, par le retrait des soldats américains. Donc, c'est hallucinant. Et là, écoute, ça, c'était plus tôt. Aujourd'hui. Mais écoute, à chaque heure qui passe, la situation va de mal en pis. Oh oui. On vient d'apprendre, littéralement, là, il y a quelques minutes, Marie-Claude, officiellement que la ville de Kandahar, ça va te dire quelque chose, on en a assez parlé.
Et comment?
Pas juste d'un point de vue américain, mais d'un point de vue canadien.
Oui, les Canadiens sont allés.
Et c'était un des centres d'opération les plus importants pour le Canada. Mm-hmm. Donc, la ville de Kandahar qui viendrait, là, je veux dire de façon prudente, là, officiellement, de tomber aux mains des talibans. Et écoute, il faut toujours le répéter, là, c'est la guerre la plus longue à la fois de l'histoire américaine et de l'histoire canadienne. Oui, il y a eu plus de 2000 soldats américains morts, mais il y a aussi eu plus de 150 soldats canadiens morts. Et là, on parle seulement des morts. On parle pas de tous les blessés, tous les graves blessés.
Ouais.
Puis, écoute, je te mentionne ceci. Le premier, petite note d'histoire là, assez triste, là, premier blessé grave là, auquel on a dû amputer une jambe là, du côté de l'armée canadienne en Afghanistan, c'est un Québécois. Il s'appelle Simon Mailloux et la blessure en question était survenue à Kandahar. Et là, écoute, on avance à 2021 et cette région-là qui vient de tomber, c'est le pays. C'est le pays qui est en train de s'effondrer, Marc.
Ah,
c'est
mais
pas plus compliqué.
Totalement. Puis en plus de ça, ben, t'as des intérêts étrangers qui veulent même pas que les États-Unis remettent les pieds là.
Exact. Okay? Ah non, je veux pas être trop dur envers Joe Biden parce qu'on s'en a assez parlé à l'émission. Là. C'est un dossier impossible, l'Afghanistan, pour tous les présidents qui ont eu à le gérer, à commencer par le président Bush. En même temps, je peux pas m'empêcher de penser à un certain Bob Gates. C'était qui Bob Gates? C'était le secrétaire à la défense à la fois sous Bush et sous Barack Obama. L'Afghanistan, il a eu à gérer ça. Et pendant la campagne de 2020, Bob Gates était sorti publiquement pour dire qu'il ne pouvait pas appuyer Joe Biden comme candidat présidentiel parce que selon lui, Biden s'était trompé, et là c'est une citation presque exacte, là, sur toutes les décisions majeures en politique étrangère de sa carrière.
Wow.
Je dirais que celle-ci là pourrait être particulièrement lourde de conséquences.
Tout à fait. Et parlant du président Biden, il est pris entre l'arbre et l'écorce aussi sur les questions énergétiques, Raphaël.
C'est pas une journée très facile à la Maison-Blanche, parce que là, on le sait, Joe Biden a fait campagne sur l'environnement en partie, s'est présenté comme étant très farouchement pro-environnement, contre les énergies fossiles. On se rappellera qu'à ses toutes premières heures, là, littéralement, à la Maison-Blanche, il avait mis fin à l'oléoduc, le fameux oléoduc Keystone XL. On se parle de liens entre le Canada et les États-Unis en Afghanistan 61 au niveau énergétique, a rejoint les accords de Paris, etc., etc. Et avait promis, on le sait, donc, de réduire l'émission de gaz à effet de serre aux États-Unis. Or, voici le petit problème qu'il confronte présentement, Marc-Claude. Les prix à la pompe augmentent. Et ça, politiquement, ça fait peur à la Maison-Blanche. Et donc, qu'est-ce que la Maison-Blanche de M. Biden fait aujourd'hui? C'est comme quoi ça s'invente pas. Demande officiellement à l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, d'augmenter sa production de pétrole pour faire baisser, évidemment, le prix à la pompe pour les consommateurs américains. Fait que, tu sais, ça paraît pas super bien, mais en même temps, écoute, tant qu'à y aller dans les grandes citations, tu sais à qui j'ai pensé sur ce dossier-là? Un certain Thomas Jefferson, évidemment un des premiers présidents américains, qui a un jour dit dans sa grande sagesse, la première tâche d'un homme d'État, c'est de se faire élire. Autrement dit, t'as beau avoir des très belles promesses, faut que tu sois capable de rester populaire auprès du monde.
Ouais, et bon, écoute, on verra, on n'en est même pas à l'idée d'un deuxième mandat pour Biden.
Non, alors, pour l'instant.
Dernier sujet, des mots sur un problème grave aux États-Unis depuis des décennies, mais là, avec la COVID, ça ne s'est pas amélioré, l'obésité.
Exact. Et ce qui est fascinant, c'est que, évidemment, dans le contexte actuel, ce qu'on dit beaucoup aux gens, et c'est vrai, c'est en vous faisant pas vacciner, vous avez un risque beaucoup plus important de souffrir de complications liées à la COVID. Ce qu'on dit beaucoup, beaucoup moins aux États-Unis, c'est ceci. En étant en situation de surpoids, vous avez un risque beaucoup plus important aussi de souffrir de complications de la COVID. À quel point? Écoute, au tout début de l'été, il y a des chercheurs d'Oxford qui ont publié dans la prestigieuse revue de Lancet une étude majeure qui montre, écoute bien ceci, là, que chez les moins de 40 ans, l'obésité, c'est la variable qui fait en sorte qu'une personne va ou peut mourir de la COVID. En haut de 40 ans, évidemment, on le sait, là, surtout en haut de 60-70, ça devient nettement plus dangereux, même sans obésité. Mais en bas de 40 ans, selon ces chercheurs-là, t'enlèves l'obésité, le taux de mortalité il est essentiellement à zéro. Et tu sais, il y a un stéréotype, on le sait depuis longtemps, comme quoi les Américains sont particulièrement obèses. Mais il y a des fois où les stéréotypes dans la vie, c'est vrai. Puis ça, c'est un cas. Écoute, je regardais ça avant qu'on entende ensemble. De tous les pays industrialisés majeurs, les États-Unis, c'est celui, et de loin, avec le taux d'obésité le plus élevé. Et c'est un taux qui monte et qui monte et qui continue de monter. Juste depuis le début du siècle, selon les données officielles du gouvernement américain, le taux d'obésité est passé d'à peu près 30% à près de 45%. Ça, là, c'est un Américain sur deux cliniquement obèse. Et donc, pourquoi est-ce qu'on s'insurge pas davantage aux États-Unis? Je te laisserai avec peut-être deux pistes de réponse. Oui, premièrement, il y a un sacré paquet d'intérêts extrêmement riches, extrêmement puissants, qui ont un intérêt, je m'excuse à le dire comme ça, mais de garder le statu quo. Là. Pense à tout l'argent qui est fait en vendant de la nourriture, disons, de moins bonne qualité. Et de deux, et ça va peut-être avoir l'air contre-intuitif, mais précisément parce que la problématique est si répandue. Quand tu es un élu, tu es un politicien, politiquement, c'est beaucoup plus risqué d'être vu comme étant en train, entre guillemets, de t'en prendre à une partie plus grosse de la population en remettant soit leur mode de vie ou même leur identité en question. C'est très, très touché. Mais là, dans ce cas-ci, il n'est pas simplement question d'apparence, là. Il est carrément question de santé. Oui, exact,
c'est
exact.
C'est incroyable. Non, c'est décourageant, cet aspect-là de la vie.
Tu me laisses-tu 30 secondes encore, Marc-Claude, sur la COVID?
Vas-y,
30
secondes.
20
secondes.
20 secondes. Ouais. Juste te dire, parce que je t'en parlais hier, là, c'est fait. Ça va être annoncé vraiment de façon formelle dans les heures ou les jours qui vont sortir, qui vont suivre, pardon. Le gouvernement américain, donc, il va autoriser une troisième dose de vaccin pour les Américains. Donc, ça aussi, c'est à suivre.
Une troisième dose. Ben, coudonc.
Troisième dose.
Ça, j'espère que ça s'en vient pas ici. Deux doses, me semble que ça. C'est en masse. Ça va très bien. En tout cas, on va bien avec deux doses ici pour l'instant. On verra. Une chose à la fois. Ouais. Merci infiniment et on se retrouve demain pour la petite dernière de l'été.
Oui, à demain.
OK, à demain, Raphaël. Eh bien, on s'arrête pour une petite pause et au retour, Yannick Bouchard nous parle de amateurs de sport.